Journal présenté par Belinda Bossouma.
Tracasserie dénoncée à l'aéroport international de Njili à Kinshasa à propos du test Covid-19. Un numéro vert sera communiqué pour toute personne embêtée de dénoncer les agents qui se livrent à cette pratique. C'est la réponse du Programme national de l'hygiène aux frontières à la dénonciation de l'ONG ACAGE. Le président du Sénat appelle à l'ordre tous les sénateurs qui s'absentent aux plénières. Ils risquent l'invalidation de leur mandat selon le règlement intérieur. Lors de la plénière d'hier, Modeste Bahati a invité tous les sénateurs à un travail assidu proportionnellement à leurs émoluments. Et puis, journée mondiale de la traduction, c'est aujourd'hui 30 septembre. Thème de cette année, un monde sans barrières, le rôle des professionnels de langue dans la construction de la culture, de la compréhension et d'une paix durable. Pour en parler, nous recevons Yulu Kabamba, membre de l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Au lendemain de la dénonciation par l'ONG ACAGE sur nos antennes des tracasseries perpétrées par les services du ministère de la Santé à l'aéroport international de Njili à l'endroit des passagers en provenance de l'étranger qui, tout en détenant le certificat de vaccination contre le Covid-19, sont obligés de passer le test Covid moyennant le paiement de $50, le Programme national de l'hygiène à la frontière réagit. Les mesures ont été prises pour éviter toute tracasserie à l'aéroport de Njili, affirme ce service. Un numéro vert sera communiqué incessamment pour permettre à toute personne qui serait embêtée de dénoncer les agents qui se livrent à cette pratique, ajoute-t-il. Le docteur Christian Kabasele, directeur adjoint au Programme national de l'hygiène à la frontière, donne ici des précisions au micro de J.R. Lungembo.
Nous avons suivi sur vos ondes qu'une organisation de droits de l'homme se plaint du fait que nos services continuent à exiger le test pour les gens qui reviennent au pays malgré qu'ils détiennent le certificat de vaccination. Nous capitalisons, mais nous pensons que les mesures ont été prises pour éviter ce genre de choses. Déjà, en février, le Conseil des ministres avait pris des mesures par rapport à ça et ces mesures ont été répercutées au niveau de nos coordonnateurs et nous pensons que ces mesures sont d'application d'aujourd'hui. Mais s'il y a des petits dérapages, nous ferons en sorte que ce genre de scène ne puisse plus se passer à nos points d'entrée. Officiellement, nous n'appliquons pas le tarif de $50. Bon, nous étions aussi surpris d'apprendre que il y a des gens qui estiment qu'on leur demande $50. Et c'est ici l'occasion pour nous pour attirer l'attention de nos compatriotes pour qu'ils soient aussi regardants. En principe, pour celui qui doit passer le test à l'arrivée, c'est $45. Bon, si quelqu'un remplit les conditions pour ne pas passer le test, il faudrait qu'il s'oppose à toute cette tentation de payer en dehors de ce qui est exigé. Et pour cela, nous allons aider les passagers à ce qu'ils puissent dénoncer, le cas échéant, ce genre de pratique, en mettant à leur disposition un numéro vert que nous allons rendre disponible très prochainement.
Vous suivrez l'intégralité de cette mise au point en invité du jour au cours de nos prochaines éditions. Restons à Kinshasa pour parler cette fois de l'école Shekina, située au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Cet établissement est momentanément fermé depuis la semaine dernière. La cause, une maladie non encore identifiée, a été détectée chez 12 élèves. Deux d'entre eux en sont même décédés. Tous présentaient des symptômes identiques, notamment des maux de tête, de gorge, rhume, douleurs articulaires, difficultés à marcher et à respirer pour certains. Des détails dans ce reportage de Priscille Kabuya et Viviane Bissé. 6 mois rendu par Babel Mpongo Masimango.
Le moins âgé des malades à 9 ans et le plus âgé 21 ans, renseigne Papi Kabongi, infirmier supérieur de la zone de santé de Matete. D'après Raphaël Kasongo, bourgmestre de cette commune, les cas sont pris en charge dans deux centres médicaux, dont un situé non loin de l'école.
Ils sont toujours en train de suivre le traitement, hein. Mais je ne peux pas vous dire à ce stade-là quelle est l'évolution.
En tout cas, vous n'avez pas entendu de nouvelles que leur état s'est dégradé.
Non. Au dernier rapport, non. Évolution bien ou stable, mais une dégradation, non.
L'infirmier supérieur de la zone de santé de Matete précise qu'un des élèves a quitté l'hôpital. Il est suivi à domicile par un kinésithérapeute. Les autorités sanitaires disent attendre les résultats des échantillons envoyés à l'Institut de recherche biomédicale INARBE avant de se prononcer. Pendant ce temps, dans un communiqué signé le mercredi 26 septembre, le médecin chef de la zone de santé de Matete, Dr Scotty Kalala, appelle toute personne de moins de 20 ans présentant des signes décrits si haut de se présenter au centre de santé le plus proche. Ce dernier l'orientera vers l'hôpital sino-congolais en cas de détresse respiratoire.
Santé toujours, dans la province de la Tchopo, le groupe Bolongué Action, une branche de la fondation portant le même nom, a procédé hier au lancement de la campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du cœur. À Kisangani, le dépistage a été lancé au centre médical de la RTNC par le coordonnateur du groupe Bolongué Action, le docteur Jean-Denis Bolongué. Il explique les objectifs poursuivis par cette campagne au micro de Jacques Moukon.
C'est pour permettre à ceux que tous ceux qui seront dépistés positifs soient catégorisés en vue de permettre l'identification de leur prise en charge. La maladie, lorsqu'elle est dépistée, son évolution, donc, en fait, c'est d'abord le traitement et puis après l'évolution de la maladie. Donc, pour le moment, nous allons nous limiter d'abord dans les dépistages et trouver les personnes qui sont positives. Ce n'est qu'après, on pourra faire alors un autre projet en vue, donc, en fait, de trouver le moyen pour leur prise en charge. Pour que la population puisse savoir qu'il y a aussi des appareils pour checker et tester les maladies cardiovasculaires ici déjà qui s'en allaient. Donc, en fait, nous allons profiter de cette période-là, donc, de dépistage. Ceux qui seront dépistés positifs seront obligés de passer d'autres examens de spécialité pour vérifier si l'hypertension a déjà créé une complication au niveau, donc, de cet organe noble que nous avons appelé le cœur. Voyez un peu les objectifs, donc, en fait, dans cette activité aujourd'hui. Et profitez aussi de faire la sensibilisation sur la population, comment il faut protéger le cœur et comment il faut s'alimenter et proposer aussi d'autres pistes de solutions en rapport avec ça.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, sur 402 orphelins de guerre hébergés à Kassindi-Lubiria, dans le territoire de Beni, 4 sont morts de malnutrition aiguë depuis 5 mois, faute de nourriture et des soins de santé adéquats. La responsable de l'orphelinat Tukinge Mayatima, qui héberge ses enfants, lance un cri de détresse aux autorités et aux autres personnes de bonne volonté. Madame Kabu Omaliro est à Kinshasa pour mener des démarches auprès du ministère de la Justice en vue d'obtenir la personnalité juridique de son ONG, ce qui lui permet d'obtenir l'aide dont elle a besoin auprès des différents partenaires. Elle parle du calvaire que vivent ces orphelins au micro de Pascal Masirika.
Ils vivent difficilement parce qu'il y a toujours la répétition des massacres. Ils viennent avec la malnutrition aiguë. Les enfants meurent à cause de cette carence des rations alimentaires et il n'y a pas les médicaments. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai, il y a 4 orphelines qui ont perdu la vie à cause de la répétition des massacres, malnutrition aiguë. Kassindi, c'est une zone rouge, axe oublié par les humanitaires. C'est pourquoi j'appelle les autorités, j'appelle les humanitaires d'aider les orphelins du territoire de Beni, précisément à Kassindi-Lubiria. Depuis janvier jusqu'au mois de mai, il y a 4 orphelines qui ont perdu la vie à cause de la malnutrition aiguë et la répétition des massacres. Les personnes, la population, on a égorgé la population, on brûle les cadavres, on brûle des véhicules, nous sommes déstabilisés et les orphelins augmentent chaque jour à cause de l'insécurité.
Madame Kabu Omaliro affirme qu'après le départ des humanitaires, les orphelins de Kassindi-Lubiria sont assistés par des églises et des hommes de bonne volonté. La cité de Kassindi est frontalière à l'Ouganda. Je vous le disais en titre, le président du Sénat met en garde tous les absentéistes au risque d'invalidation de leur mandat conformément au règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Modeste Bahati invite tous les sénateurs à un travail assidu proportionnellement à leurs émoluments. Il a dit lors de la plénière d'hier au cours de laquelle le Sénat a adopté le calendrier de la session parlementaire de septembre. Plus de détails avec Michel Kifindangoy.
Ce calendrier adopté compte au total 14 matières, parmi lesquelles 10 nouvelles et 4 arriérés législatifs. Outre l'examen de la loi des finances 2023, le contrôle parlementaire sera également au rendez-vous, l'objectif étant de rendre le travail efficace, explique la rapporteure adjointe du Sénat, Nathalie Boulansung.
Le contrôle parlementaire doit être de mise au niveau du Sénat. Nous allons nous organiser entre les deux bureaux des deux chambres pour que nous puissions avoir une journée au Sénat consacrée au contrôle parlementaire, dont toutes les questions gouvernement, les questions orales avec débat pourront faire valoir toutes les préoccupations de la population.
Le président du Sénat a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les sénateurs absentéistes. Modeste Bahati Lukwebo.
Nous sommes dans une institution sérieuse. Nous devons aussi être conscients que nous sommes des employés de l'État et qu'on ne peut pas payer un salaire s'il n'y a pas de contrepartie. Et donc, s'il n'y a pas de raison valable pour que quelqu'un s'absente, logiquement, il ne peut pas être payé.
En effet, les règlements intérieurs stipulent qu'un sénateur qui accumule sans justification plus d'un cas d'absence au cours d'une session verra son mandat être invalidé.
Et puis, le gouvernement, à travers son ministère des Finances, la FEC et ses partenaires économiques privés, étudient depuis jeudi les voies et moyens pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a ouvert hier à Kinshasa la première conférence risque pays RDC. Elle a pour mission d'examiner l'ensemble des facteurs internes et externes susceptibles d'impacter l'activité économique, politique et sociale du pays. Explication avec vous, Billy Van Lutumba.
Comme premier engagement du gouvernement congolais, a déclaré le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, c'est l'amélioration du climat des affaires.
Le gouvernement s'en pour appeler toutes les conditions favorables à l'attractivité du pays, notamment pour les investissements privés. C'est pourquoi le chef de l'État et moi-même avons fait l'amélioration du climat des affaires une grande priorité. Les réformes concrètes en faveur des entreprises ont été conduites, comme la suppression de plusieurs taxes sur le commerce extérieur. Les financements que nous avons reçus et la mobilisation accrue de nos recettes fiscales nous permettent à présent d'investir dans les infrastructures de base sur l'ensemble de notre territoire.
Cet engagement est conforté dans une certaine mesure par les résultats du premier rapport sur la cartographie des risques pays de la RDC, tel que présenté à cette occasion par Stanislas Zézé, PDG des Bloomfield Investment Corporation, une des structures qui participent à la conférence. D'après ce rapport, une amélioration sensible du climat des affaires en RDC est en vue. C'est du fait que la RDC a obtenu une notation globale de 5.1, ce qui constitue un résultat satisfaisant, quand bien même beaucoup reste à faire. Signalons que cette conférence connaît la participation de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la société civile. Dans sa recommandation aux participants, le Premier ministre Samalukonde dit espérer que ces assises produiront des réflexions pertinentes pour la bonne marche du pays sur le plan économique.
Entre-temps, sachez qu'un véhicule de marque Toyota Land Cruiser, année de fabrication 2022, d'une valeur de 150 000 dollars en provenance du Congo central et plusieurs articles non conformes aux règles douanières ont été interceptés le mercredi 28 septembre par des agents de la Direction générale des douanes et assises lors d'un dépotage du conteneur. Ce véhicule neuf, qui devait être dédouané à un prix équivalent à son état, a été déclaré comme un bien d'occasion, permettant ainsi à son propriétaire de ne débourser que la modique somme des 2000 dollars. La DGDA condamne ce comportement frauduleux tout en annonçant l'ouverture d'une enquête. Un procès verbal d'infraction a été adressé au détenteur du dit véhicule. Arthur Mvemba, directeur coordonnateur de la DGDA, explique au micro de Kelly Nuka.
Alors, ils ont cherché à savoir un peu plus, juste s'enquérir sur les faits. Est-ce que si la marchandise qu'on était en train de dépoter avait bel et bien souscrit une déclaration, et on a vu un peu, on leur a montré la déclaration, et là-dessus, on s'apercevra que la Jeep qui descendait du conteneur est une Jeep neuve 2022, mais sous la déclaration, c'était présenté comme étant un véhicule d'occasion déclaré à 2000 dollars. Ben, les enquêtes sont ouvertes à notre niveau, ça prendra certainement quelques moments, mais par message, phonie, il a été demandé au directeur provincial du Congo central, parce que c'est de là que provenait la marchandise. Il a été demandé au directeur provincial de suspendre, pour besoin d'enquête, de suspendre les agents, les douaniers qui sont intervenus dans le traitement de cette déclaration-là, tout comme aussi l'agence en douane qui a souscrit la déclaration, il est en suspension.
Développement local de 145 territoires. La première phase de la matérialisation de cette vision du chef de l'État a été lancée officiellement hier par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, à Sake. C'est dans le groupement Kamuranza, territoire de Masisi, sélectionné comme territoire pilote pour le programme. Selon le chef d'antenne du bureau central de coordination BCECO en province, un total de 48 écoles primaires et 34 centres de santé vont être construits dans les 6 territoires du Nord Kivu durant cette première phase du programme pour un coût d'environ 10 millions de dollars, les propos de Jean Bosco Kasusula recueillis par Bernardin Nyangui.
Dans le cadre de la première phase de la composante IN, il est prévu dans la province du Nord Kivu un total de 82 projets répartis comme suit par territoire. Beni, 16 projets, 8 écoles, 8 centres de santé. Lubero, 15 projets, 9 écoles et 6 centres de santé. Massis, 14 projets, 9 écoles et 5 centres de santé. Nirangongo, 11 projets, 7 écoles et 4 centres de santé. Rutshuru, 13 projets, 7 écoles et 6 centres de santé. Walikale, 13 projets, 8 écoles et 5 centres de santé. Les organisations non gouvernementales de développement OASBES ont été recrutées comme agences locales d'exécution. Une école type est constituée de 2 modules de 3 salles de classe chacun, soit un total de 6 salles de classe, un bâtiment administratif avec bureau et sanitaire. Par contre, pour un centre de santé type, il sera constitué d'un bâtiment principal, un laboratoire et des sanitaires.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.